Bonjour et bienvenue sur Blabla Web, la web radio scolaire inter-établissement du Périgord.
Nous sommes en direct de l'amphithéâtre Jean Moulin à la médiathèque Pierre Fanlac de Périgueux.
Nous vous proposons une émission exceptionnelle pour les 40 ans du CLEMI, le Centre pour l'éducation aux médias et à l'information. Le CLEMI forme nos professeurs et en ce moment, certains sont même en stage et suivent cette émission dans le public.
Quatre établissements de Dordogne qui vont de l'élémentaire au lycée ont participé à la construction de cette émission.
Les CM1, CM2 de l'école élémentaire André Boissière de Périgueux.
Des collégiens de Leroy Bourran au Bugue.
Les premières bacs pro commerce et les premières bacs pro vente du lycée professionnel Pablo Picasso de Périgueux.
Des secondes générales, les premières bacs pro gestion administration et les premières bacs pro commerce du lycée Arnaud Daniel de Ribérac, aidés par quelques collégiennes d'Arnaud Daniel toujours à Ribérac.
Nous sommes en direct aujourd'hui pour vous proposer des sujets variés qui nous concernent toutes et tous. Nous allons vous parler de notre avenir, comment nous le rêvons et comment nous pourrions concrètement le rendre plus harmonieux pour tout le monde.
Dans la première partie de l'émission, nous allons parler des jeunes, des médias et du monde à venir. Tout cela est en lien avec la semaine de presse et des médias à l'école en 2023. Nous vous ferons entendre à ce propos une interview exceptionnelle d'Annie Ernaux, prix Nobel de littérature 2022. Cette interview a été réalisée par des élèves du lycée professionnel Pablo Picasso de Périgueux.
Dans la deuxième partie de cette émission, nous vous proposerons des solutions pour envisager un avenir qui soit respectueux de la nature et des ressources de la planète Terre. Pour en parler, nous aurons en direct sur notre plateau le dessinateur de bande dessinée Troops.
Nous avons donc des invités exceptionnels dans cette émission, à commencer par Madame Nathalie Malab, l'inspectrice d'académique de la Dordogne, qui est directrice académique des services départementaux de l'éducation nationale.
Bonjour Madame Malab.
Bonjour.
Est-ce que quand vous étiez à l'école, vous avez fait de la radio et en faites-vous encore ?
Alors, je n'ai pas pu faire de la radio quand j'étais à l'école, au collège ou au lycée, puisque quand on travaillait sur les médias, on faisait plutôt des journaux, genre voilà, la presse papier. Mais j'ai l'occasion de faire de la radio quand je suis invitée par France Bleu Périgord.
Pourquoi et quand l'idée de faire de la radio dans les établissements scolaires est apparue et pourquoi c'est utile d'en faire d'après vous ?
Alors, je crois que cette pratique a commencé à s'installer avec le CLEMI et que c'est bien, et elle s'est développée, elle a essaimé justement avec tout au long des années, des 40 années du CLEMI. Alors, pourquoi c'est important ? Parce que je pense que les élèves doivent avoir une familiarité avec l'information et découvrir, être curieux, savoir comprendre cette information pour s'ouvrir au monde. Et pour comprendre l'information, il faut savoir comment elle est construite. Et quoi de mieux que de construire soi-même une information pour mieux comprendre comment fonctionne la radio. De plus, la radio, pour moi, c'est un des médias les plus fabuleux parce qu'il permet justement de développer toutes les compétences orales. Il permet d'apprendre à parler aux autres, à des interlocuteurs. Et il permet de développer une opinion argumentée.
Merci d'être venu et d'avoir répondu à nos questions. Au revoir et j'espère à bientôt.
Au revoir.
La web radio nous fait beaucoup de bien car nous pouvons nous exprimer sur le temps scolaire. Pour certains d'entre nous, elle peut même donner, pourquoi pas, des idées d'avenir. Avenir, c'est la thématique de notre émission. C'est aussi la thématique de notre prochain sujet. Quelques élèves des quatre établissements présents sur ce plateau ont essayé d'imaginer leur avenir, leurs rêves, mais aussi leurs angoisses. Nous allons écouter Victoire, Olayedi, Evan, Sarah et Ellie de l'école primaire André Boissière de Périgueux.
Comment imagines-tu l'avenir ?
Nous avons posé cette question à des élèves de l'école André Boissière à Périgueux.
Certains et certaines élèves ont donné des réponses pessimistes comme
la fin du monde,
la guerre contre les pays,
une météorite qui percute la Terre.
D'autres élèves ont choisi des réponses optimistes comme
un monde futuriste,
des voitures et des maisons qui volent,
des robots à la place des humains.
L'idée d'un monde en guerre, sans football, sans nature, nous rend tristes.
L'idée est cauchemardesque.
En même temps, c'est la vie de mourir.
Autant rester normal.
Ça serait encore plus inquiétant si on savait à l'avance que la fin du monde arrive.
Nous préférons donc imaginer le monde futur de manière optimiste.
Pouvoir s'amuser avec nos amis.
Aller voir des matchs de foot gratuitement.
Être et vivre heureux.
En gaspillant moins et en vivant plus longtemps.
À présent, voici le tour de Jade, Eline, Nolan, Elijah, Mélanie, Maloé, Balthazar, Noah, Clémence, Lina, Maxime, en classe de 5e au BUG.
Comment les élèves du BUG envisagent leur avenir et quels sont les métiers et activités qu'ils veulent faire plus tard? Leurs réponses sont très variées.
Je veux être maman.
Un nageur professionnel.
Je veux faire un voyage à Sydney.
Basketteur professionnel.
Architecte d'intérieur.
Architecte. Un aller simple en Colombie.
Coiffeuse. Maîtresse.
Quand nous leur demandons ce qui leur fait peur, ils nous expliquent ce qui les angoisse. Mais nous avons aussi quelques surprises.
La pollution.
Pas grand chose.
Je sais pas.
Me fracturer les os.
Ne pas arriver à faire des calculs de maths.
Rien.
La pollution.
Pas bien travailler dans mon métier.
T'es perdre.
Merci à Jade, Nolan, Elijah, Mélanie, Maloé, Balthazar, Noah, Clémence, Lina, Eline et Maxime.
Maintenant, c'est au tour de Steven, de la classe de première bac pro commerce du lycée Pablo Picasso de Périgueux. Il va nous donner sa vision de l'école qu'il souhaiterait à l'avenir. Écoutons son billet d'humeur en direct sur notre plateau.
Je pense qu'il va falloir adopter d'autres stratégies au sein de l'éducation nationale si l'on souhaite que la génération future soit mieux concentrée et dans un environnement où elle aura une véritable envie d'apprendre. Je pense que c'est mieux si un élève va en cours avec passion et envie de travailler et non par obligation. Ainsi, il faut réadapter le système, il faut aussi aménager les temps scolaires et comprendre que certains élèves peuvent avoir du mal à écouter un professeur toute la journée, assis sur une chaise. J'ai remarqué que lorsque nous sommes petits, nous sommes surstimulés et qu'au fur et à mesure que les années passent, une certaine routine s'installe à l'école comme à la maison. Or, je pense que l'être humain est un être curieux qui doit découvrir des choses tout au long de la vie.
Et pour finir, le lycée professionnel Arnaud Daniel de Ribérac avec les avis de Mathilde, Alissa et Lana en classe de première bac pro commerce.
Alors, ce voyage en Belgique, vous avez aimé ?
Oui, j'ai bien aimé la cuisine belge, ça m'a même donné envie d'apprendre l'anglais pour mieux communiquer à l'étranger.
Moi, ça m'a donné encore plus envie de voyager.
J'ai trop envie de revenir en Belgique, de visiter l'Espagne, la Pologne, le Canada et les États-Unis.
Les États-Unis, sérieux ?
Oui, pourquoi ?
Bah, tu connais pas le projet Willow ?
Non.
Bah, en gros, ce projet vise à assurer la production d'au moins 576 millions de barils de pétrole en 30 ans.
Sérieux ou ça ?
Sur les versants nord de l'Alaska.
Selon le ministère américain, il coûtera 7 milliards de dollars. 3 sites de forage ont déjà été approuvés, soit 219 puits d'extraction.
Quelles seront les conséquences ?
Le projet va entraîner l'émission de 239 millions de tonnes de CO2 sur 30 ans, l'équivalent des émissions de 64 centrales à charbon durant un an. En comparaison, les États-Unis ont relâché en 2020 l'équivalent de 5,9 milliards de CO2.
C'est grave quand même.
Mais imagine l'impact sur la faune et la flore.
Alors toujours envie d'aller aux États-Unis ?
Pour ça non, mais pour découvrir le pays, oui.
Vous venez d'écouter plusieurs billets d'humeur d'enfants et d'adolescents de Dordogne sur la façon d'envisager leur avenir. Ces billets sont signés Victoire, Olayedi, Evan, Sarah et Ellie pour l'école élémentaire André Boissière de Périgueux. Au collège Le Roi Gouron du Bug, c'était celui de Jade, Eline, Nolan, Elijah, Mélanie, Maloé, Balthazar, Noah, Clémence, Lina et Maxime. Au lycée professionnel Pablo Picasso de Périgueux, Steven vous a proposé sa vision de l'avenir. Et au lycée professionnel Arnaud Daniel de Ribérac, vous avez pu entendre Mathilde, Alissa et Lana.
Nous les jeunes, nous sommes beaucoup sur les réseaux sociaux. Ils nous influencent, que ce soit positivement ou négativement. Mais qui d'autre nous influence ? Eh bien, les médias d'information, notamment. Le problème, c'est que les médias traitent de sujets qui sont presque toujours négatifs, déprimants, anxiogènes. Par exemple, la guerre en Ukraine, les tensions internationales avec la Russie, la réforme des retraites, le harcèlement scolaire et autres violences en tout genre. Qui dit mieux ? Pourquoi les médias évoquent rarement ce qui est positif ou merveilleux ? Pourquoi ne pas mettre l'accent sur les personnes qui aident les autres au quotidien, sur les beaux projets menés à bien dans les écoles, collèges et lycées, ou au sein des communes? Pour répondre à ces questions essentielles, nous accueillons sur notre plateau Emmanuel Clavry, journaliste à France Bleu Périgord. Aujourd'hui reporter, il a aussi été présentateur de la tranche matinale d'information sur cette station de Radio France. Il est également parrain de Web Radio scolaire qui démarre au collège cette année. Et son expérience professionnelle la plus exceptionnelle date de ses interventions au lycée professionnel Pablo Picasso de Périgueux de 2012 à 2018 dans le cadre du projet Web Radio du lycée. Bonjour Emmanuel Clavry.
Bonjour Lilian, bonjour à tous.
Vous qui êtes journaliste, comment expliquez-vous cette tendance sans fin à la tristesse, aux mauvaises nouvelles en tout genre dans les médias?
Alors, est-ce que c'est vraiment ce qui se passe dans la réalité? On essaie de parler de tout, et malheureusement, il n'y a pas que des trains qui arrivent à l'heure tous les jours, et ça n'intéresserait pas grand monde. Malheureusement, la nature humaine est ainsi faite que tout ce qui se passe aussi de malheureux intéresse les gens. Quand il se passe, tu as pris tout à l'heure l'exemple de la guerre en Ukraine, tu imagines si, alors qu'il se passe le massacre qui se passe là-bas, on n'en parlerait pas du tout. Juste pour donner des bonnes nouvelles, c'est pas possible. Il faut qu'on parle de tout, et malheureusement, il y a ces nouvelles-là. Alors, on ne parle pas que de ça, il arrive aussi qu'on parle de belles initiatives quand il y en a. Mais c'est vrai que s'il y a un accident, par exemple, qui fait beaucoup de morts dans le département, on ne peut pas dire « il ne s'est rien passé », on est obligé d'en parler. Et c'est malheureusement une mauvaise nouvelle.
Ce qui n'est pas faux.
Merci.
on peut se rejoindre là-dessus, c'est sûr. Pourquoi ne pas privilégier les bonnes nouvelles afin de donner le moral aux gens et aux jeunes en particulier qui ont tant besoin de ce projet dans l'avenir?
Mais j'adorerais donner le moral aux jeunes. Ouais. Mais c'est pas mon boulot, en quelque sorte. Moi, je dois relater en tant que journaliste tout ce qui se passe. Alors, s'il se passe des choses bien, on part d'une journée, on a une page blanche, en fait. On ne sait pas ce qui va se passer. Donc, on se dit, tiens, on va faire des reportages positifs parce qu'il se passe plein de choses positives. Mais si, pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, il se passe une catastrophe, elle va venir s'insérer dans le programme qui a été fait dans la journée et elle va enlever des sujets, ou en tout cas les décaler, et qui passeront plus tard, des sujets peut-être un petit peu plus positifs. Mais on adore faire des sujets positifs, et on en fait. Hein. Il y en a quand même, dans les journaux, on essaie de faire un équilibre quand même. Par exemple, il peut y avoir des faits divers, il peut y avoir un reportage sur une entreprise qui ferme ou qui ouvre, ça arrive aussi. Et puis souvent en fin de journal, vous avez ce qu'on appelle une fin de canard chez nous, c'est-à-dire un sujet un petit peu plus positif, justement pour essayer de terminer sur une note un petit peu plus gaie.
D'accord. Est-ce qu'en tant que journaliste, cela vous dérange que les grands médias traitent de sujets majoritairement négatifs sur le coup?
Ça fait partie du travail. Je préfère personnellement aller faire un reportage où je vois des gens heureux que des gens malheureux. Mais en signant pour faire ce métier, je me retrouve à faire des sujets qui sont tristes. Je sais qu'ils vont être tristes pour les gens qui le vivent, pour les gens qui l'écoutent et aussi pour les gens qui traitent l'information, parce qu'on a quand même un cœur malgré tout. Et quand les sujets sont vraiment graves et lourds, ça nous touche aussi, bien évidemment.
Comme moi, je suis allé me renseigner sur France Bleu Périgord, donc
c'est
sur
une bonne idée.
Sur vos projets. Comme là, on est sur des thèmes du coup sur le négatif positif. Savoir, comme vous avez des choix quand même majoritairement positifs dans vos projets.
Ah, quand même.
Est-ce un choix volontaire de votre part ou, comme vous disiez tout à l'heure, c'est plutôt les actualités que ça se forme?
Alors en fait, pour faire de la radio, si tu écoutes toute une journée de radio, tu vas voir qu'il y a des différents espaces et qui ne sont pas gérés par les mêmes personnes. Dans les journaux, par exemple, l'actualité, c'est géré par la rédaction. Et eux sont amenés à traiter des sujets plutôt négatifs, parfois, quand ils se produisent. Mais tout le reste de l'antenne, et c'est la grande majorité de l'antenne, on fait découvrir la richesse de ce département. Tu vas entendre des gens, par exemple, qui ont des châteaux, des gens qui ouvrent des entreprises, des agriculteurs qui présentent leurs produits. Et tout ça, c'est plein de choses positives. Donc si tu retiens de toute la journée, tu dois avoir quand même 80% de choses positives pour aller 10-20% de choses un petit peu moins gaies.
D'accord. Écoute, je vous remercie beaucoup, Emmanuel Clavry, d'avoir répondu à nos questions.
De rien, c'était un plaisir.
Et merci de votre...
Les secondes Bac Pro Animation enfance et personnes âgées suivent cette année en français avec Madame Favard, Madame Blondy et Monsieur Guedefin, un projet autour de l'œuvre d'Annie Ernaux, prix Nobel de littérature 2022. Des lycéennes de cette classe ont eu la chance de pouvoir interviewer par téléphone la grande auteure française après une initiation à la lecture à voix haute, théâtralisée d'extraits de ses œuvres par Jeanne Champagne, metteur en scène et ami d'Annie Ernaux, le tout grâce à l'association Femmes Solidaires, et notamment grâce à Françoise Duchazel. Elles ont été les organisatrices du festival L'écrit des femmes en mars dernier à Périgueux, autour de l'œuvre d'Annie Ernaux, qui n'a pas pu être présente, malheureusement. Dans leur interview par téléphone réalisée le 3 avril dernier, Lovely, Opal et Evody ont notamment demandé à Annie Ernaux sa vision de l'avenir pour les jeunes. Nous l'écoutons.
Vous utilisez beaucoup votre passé et les ressources de votre mémoire pour écrire, mais comment voyez-vous l'avenir pour nous, les jeunes ? Qu'espérez-vous pour la jeunesse ?
J'espère qu'elle sera, plus attentive aux problèmes du monde. Et pas seulement de leur de leur propre vie, ça compte, hein, c'est d'abord de sa vie qu'on, mais aussi que ça dépassera les problèmes français, que on verra par exemple combien des jeunes pourquoi et comment. Alors, il se peut que des jeunes traversent la Méditerranée avec, sur des bateaux de fortune, alors qu'ils ont 15 ans, quelquefois moins, pourquoi ? Et se demander, espérer un monde plus fraternel.
Vous venez d'entendre un extrait d'une interview d'Annie Ernaux par Lovely, Opal et Evody, en seconde bac pro animation enfance et personnes âgées, au lycée professionnel Pablo Picasso de Périgueux. Quel bel échange intergénérationnel.
Erasmus Plus est un programme de mobilité européenne permettant aux jeunes de partir en stage professionnel à l'étranger. Notre établissement, le lycée Arnaud-Daniel de Ribérac, participe à ces mobilités depuis 2014 avec un réel succès. Une centaine d'élèves et 9 membres du personnel ont eu la chance de partir en Grèce, en Espagne, en Italie ou en Belgique. Erasmus Plus permet aux lycéens de s'ouvrir à de nouvelles cultures et à des pratiques professionnelles qui les aident à se construire. Nous écoutons maintenant les témoignages des élèves du lycée de Ribérac, partis en Belgique en février dernier.
Eva et Cheyenne, pouvez-vous nous parler de votre stage à Bruxelles ?
J'ai toujours su que je voulais travailler dans le commerce. Ma mère était commerçante et parfois j'étais à son travail. À Bruxelles, j'ai fait un stage au magasin Inno qui proposait beaucoup de marques de luxe. J'étais au rayon maison, près de 4000 m². J'ai réalisé beaucoup de tâches très variées, comme la décoration de meubles, pour présenter la vaisselle, l'implantation de produits des différentes marques. Mon travail restera en place pendant un bon bout de temps. Mes collègues étaient très gentils, ils kiffent le français. Il y avait tout le temps d'écouter, c'était bon, comme tous les souvenirs que j'ai à Bruxelles.
J'ai effectué mon stage dans l'entreprise Inditex, qui gère les magasins comme Zara, Bershka, Pull&Bear. J'ai réalisé surtout des activités de réorganisation des dossiers du personnel, pour aider dans leur préparation de leur futur déménagement. Finalement, grâce à ce stage, j'ai pu réaliser que j'aimerais plutôt travailler en secrétariat médical ou comme technicienne commerciale. Après mon bac, j'envisage de partir en apprentissage ou en BTS.
Merci les filles! Et vous, Anaïs, Marion et Laurine, vous en avez retenu quoi ?
Je me rappelle du premier jour.
C'était un peu compliqué, la séparation de la famille, un pays étranger, un vrai choc culturel.
Vous étiez en pleurs toute la journée.
Oui, mais au final, on a aimé, puis alors on a passé des bons moments, il y avait les jeux de société, le restaurant.
Oui, le voyage nous a beaucoup plu.
Le restaurant était vraiment incroyable, c'était super bon.
Et vous vous rappelez de la dernière journée au Parlement ?
Oui, je me rappelle, c'était vraiment drôle.
En fait, on est arrivé, c'était déjà fermé à cause d'une manif d'agriculteurs.
En vrai, c'était assez drôle, il y avait les tracteurs qui klaxonnaient et tout, c'était bien.
Et toi Marion, du coup, tu l'as visité, c'était comment ?
Super grand et super impressionnant.
Je me doute, moi je suis super déçue de ne pas l'avoir vu.
J'ai aussi beaucoup aimé le musée Magritte et l'Atomium.
Mais moi j'ai préféré le musée, on a vu les vraies œuvres du peintre.
Moi j'ai préféré l'Atomium avec le spectacle de lumière et la grande architecture.
Ah ouais, super. Et toi Louis ?
Ce voyage, je l'ai vu comme un défi. C'était mon premier voyage en dehors de la France, ce qui nous a permis de créer des liens uniques entre professeurs et élèves, et nous avons appris à mieux nous connaître tous. Certains d'entre nous étaient craintifs à l'idée de partir loin de leur confort habituel, mais toutes les craintes se sont effacées dès que l'on est arrivé à Bruxelles, et nous avons tous pleinement profité de la culture belge pendant ce voyage.
D'accord.
Merci à vous, Cheyenne, Eva, Marion, Laurine, Anaïs et Louis pour ces témoignages. Si vous en avez l'occasion, n'hésitez surtout pas à découvrir de nouveaux horizons.
Cette première partie de notre émission Interétablissement touche à sa fin. Ne soyez pas tristes, nous allons vous proposer une courte pause musicale avant de repartir pour la deuxième et dernière partie de l'émission. Elle sera consacrée à des solutions pour un avenir respectueux de la nature et des ressources de la planète Terre. Nous aurons notamment sur notre plateau le dessinateur de bande dessinée Troubs, en direct depuis la médiathèque Pierre Fanlac de Périgueux. Allez, écoutons maintenant la chorale des élèves du collège Le Roi Gourand du Bugue qui nous interprète ses cantos, un chant traditionnel occitan.
Des hommes fenêtres, y a une âge et loup, tout au long des cantos, canto saut en chou.
D'écouter Secanto, un chant traditionnel occitan par les élèves de la chorale du collège Le Roi Gourand au Bugue.
C'est reparti pour notre émission associant sur le mode coopératif des CM1 CM2 de l'école André Boissia de Périgueux, des élèves du collège Le Roi Gourand du Bugue, des premières bac pro commerce vente et du lycée professionnel Pablo Picasso de Périgueux, des secondes générales, les premières bac pro commerce et gestion administration du lycée Arnaud Daniel de Ribérac, aidés par quelques collégiennes d'Arnaud Daniel à Ribérac. Quelle équipe ?
Élise, Louane, Nora, Liam et moi, Marguerite, nous avons écrit un papier sur la rénovation de l'école André Boissière de Périgueux. C'est Nora et Louane qui vous le présentent maintenant.
L'école André Boissière va être rénovée entièrement. Les enfants vont aller au centre de loisirs Borébreu pendant une année. Quand l'école sera rénovée, il y aura plus d'arbres, de fleurs, un jardin pédagogique et aussi plus d'espaces différents pour les filles et les garçons dans la cour de récréation. Pour l'instant, dans cette cour, il y a plus de filles sur les côtés et les garçons sont plutôt sur les terrains de sport.
Comment nous sommes-nous aperçus de cela ? L'année dernière, l'architecte et une paysagiste
sont venus avec un plan de l'école. Ils nous ont demandé de placer une gommette à l'endroit où on pensait être le plus souvent dans la cour. Puis pendant la récréation, les maîtresses nous ont demandé de nous immobiliser quand elles sifflaient. Après, nous avons collé une autre gommette sur le même plan à l'endroit où on s'était arrêté. L'architecte a donc prévu plusieurs aménagements. Une coursive qui sert aussi de préau, une passerelle avec un jardin pédagogique, une rampe d'accès abritée avec un mini cours d'eau et une cour végétalisée.
Et on garde nos 7 tiels, bien sûr.
On est content, mais on ne sera plus à l'école pour en profiter.
Je suis d'accord avec Louane, c'est dommage, mais je serai plus là. Mais je pourrai quand même voir le résultat parce que ma petite sœur sera toujours à l'école.
Nous entendons beaucoup parler d'empreintes carbone et de biodiversité ces derniers temps. C'est important pour l'avenir de notre planète. Au collège du Bugue, nous avons voulu connaître l'avis de Monsieur Boudy, le principal, et d'une élève du club Sentinelle Nature pour voir ce qui se peut faire pour favoriser la biodiversité et pour limiter notre impact carbone dans le collège.
Dans un collège, il y a toujours des choses à faire pour la planète. Parfois, ce sont les adultes, comme Monsieur Boudy, notre principal, qui peuvent proposer des changements qui contribuent à ce que notre collège devienne plus respectueux de l'environnement.
Quelles sont vos idées pour améliorer l'écosystème dans le collège ?
Alors, il y a plusieurs choses. La première, ça serait de végétaliser la cour, qui n'est que du goudron actuellement, et qui a tendance à réveiller une réverbération. Ça déclenche beaucoup de chaleur, ce qui fait qu'on pourrait gagner en température, et les élèves pourraient être aussi à l'ombre. Et on aurait aussi un petit peu plus d'oxygène au sein de l'établissement.
En termes d'économie d'énergie, qu'est-ce qui est fait en ce moment dans le collège ?
Donc en ce moment, il y a eu de l'isolation extérieure du bâtiment et actuellement il y a une étude qui est faite pour changer le mode de chauffage qui est aujourd'hui encore au fioul, avec de vieilles chaudières au fioul qui consomment beaucoup, qui reviennent très chères et qui polluent énormément. Donc l'objectif, c'est d'avoir quelque chose qui soit plus économique d'un point de vue du coût et beaucoup plus propre aussi. Donc il y a deux projets actuellement, deux études qui sont faites, une pour de la géothermie et une autre pour monter une chaudière bois.
Et pour ma dernière question, dans l'avenir, qu'est-ce qui est prévu au sein du collège ?
D'une façon un petit peu plus générale, donc le changement de chauffage, végétalisation de la cour pour enlever tout ce goudron. Alors, il y en aura toujours, hein, mais d'enlever une grosse partie du goudron pour pouvoir avoir des arbres, pour pouvoir être à l'ombre et de la verdure. Compléter, vous avez déjà les jardins avec Madame Bonnier, tout ce qui est jardin, plantes, etc. Ça serait de pouvoir l'agrandir.
Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions.
Agrandir les jardins du collège, cela rendrait en effet la cour plus agréable, mais les végétaux dans la cour peuvent avoir aussi une autre utilité, comme nous l'explique Oxane, qui, avec d'autres élèves volontaires, participe au club Sentinelle Nature créé par Madame Bonnier, notre professeure d'SVT.
Bonjour.
Bonjour.
Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît ?
Je m'appelle Oxane, je suis en 5e colon et je fais partie du club Sentinelle Nature.
Pourquoi avez-vous rejoint ce club ?
Pour aider la biodiversité du collège.
Qu'aimez-vous faire dans ce club ?
J'aime jardiner pour rendre le collège plus beau.
Que faites-vous dans ce club pour aider la biodiversité ?
On plante des végétaux pour attirer les insectes.
Merci.
Au nom des plantes et des petits insectes, merci à ces courageux sentinelles nature qui travaillent pour planter des végétaux et ainsi préserver la biodiversité de notre planète.
Comme nous venons de le voir, il y a beaucoup de gestes qui limitent notre impact sur l'environnement. Le jardin d'un collège, avec quelques bonnes volontés, peut devenir un espace où l'on prend soin de notre planète. Merci à Mathéo, Oxane, Eva et Justine pour ce reportage.
La lutte contre le gaspillage alimentaire et pour une alimentation équilibrée basée sur des produits de bonne qualité est très importante. Bien manger, surtout quand on est jeune, est une manière de protéger notre capital santé pour l'avenir. Nous avons voulu savoir ce qui est fait au sein de notre collège et nous avons posé des questions à Rémi Laporte, notre chef cuisinier. Voici ce que Zach et Mathis ont découvert.
Faites-vous toute la nourriture maison ?
Oui, tout est fait maison, avec des produits frais, le plus possible local. Voilà, et quand on peut, c'est bio aussi, donc voilà, pour essayer, tout est fait maison, jusqu'aux pâtes, les pâtes à tarte, les pâtes feuilletées, voilà.
Quelles sont les quantités de nourriture gaspillées par semaine ?
Je ne pourrais pas répondre comme ça, mais on essaye de faire une pesée tous les jours, et selon comment vous mangez, ben, ça peut varier de 50 grammes par personne jusqu'à 100 grammes des fois. Donc c'est énorme.
Êtes-vous pour ou contre le repas 100% bio issu des agriculteurs locaux ?
Je suis pas contre, mais je préfère qu'on parle d'abord de 100% fait maison, local et de saison, et si possible bio. Voilà, je suis pas fermé au 100% bio.
Quelles sont les mesures prises pour lutter contre le gaspillage alimentaire ?
Contre le gaspillage alimentaire, nous faisons... Donc à la suite du passage des élèves, nous récupérons tout ce qui peut être composté. Et donc nous avons un composteur en bas et nous faisons le compost.
Comme nous venons de le voir, les cantines scolaires peuvent contribuer beaucoup au combat contre le gaspillage et pour une alimentation de qualité. Merci à Rémi Laporte, notre chef cuisinier, ainsi qu'à Zach et à Mathis pour cette interview.
Deux élèves, Sergen et Amir, du lycée Pablo Picasso de Périgueux, vont nous parler dans le prochain sujet de leur vision du lycée de demain. Nous les écoutons.
Dis Sergen, combien paye le lycée Pablo Picasso en dépenses énergétiques chaque année ?
Notre lycée paye aux alentours de 35 000 euros par an pour l'électricité. Pour le gaz, la somme s'élève aux alentours de 60 000 euros entre 2019 et 2021. Mais en 2022, le prix du gaz a doublé à cause de la hausse des prix et la facture s'est élevée à 120 000 euros.
Le futur, c'est demain. La planète, c'est à nous de la sauver. Le lycée du futur, c'est à nous de le créer. Sergen, quelle sera l'architecture des lycées du futur ?
On imagine le lycée avec plus d'art. Les bâtiments auront des formes artistiques plus arrondies, triangulaires et octogonales. Nous pensons que le lycée doit être un lieu plus confortable, avec plus de lumière et des salles de repos. Le lycée du futur sera plus écologique. Par exemple, pour le vitrage, on utilisera un verre intelligent qui transforme la chaleur en électricité. Dans la même idée, on installera des récupérateurs d'eau pour alimenter les toilettes. Amir, penses-tu que les lycées pourront être autosuffisants ?
Oui, on installera un potager pour fournir la cantine en légumes. Le lycée sera plus économe. Pour l'électricité, on posera des panneaux solaires sur les toits des bâtiments et sur les parkings pour recharger tous les véhicules électriques, les voitures des profs, les trottinettes ou les vélos.
Amir, et comment envisages-tu l'enseignement du futur ?
Il y aura moins de cours en présentiel et plus de cours en visio. Avec la naissance de l'intelligence artificielle, on aura la présence de profs robots humanoïdes. Les classes seront constituées de 15 élèves maximum. Les préparations aux grandes écoles, le soutien scolaire et l'aide aux devoirs seront accessibles à tous et à toutes.
Merci à Sergen et Amir de nous avoir partagé leur perception sur le sujet. Et nous espérons un jour voir tout cela se réaliser. Surtout les profs robots.
Le Transat Lecture, qui associe collégiens et lycéens de Ribérac, nous a fait découvrir l'ouvrage de Charlotte Bousquet, Louilletu, des éditions Glénat dans la collection On est prêt. L'auteure, contemporaine, à l'aise dans tous les genres, propose des récits qui servent des causes environnementales ou humanitaires. Charlotte porte la plume écologique. Louilletu aborde donc ce thème. Clara, une jeune fille qui a quitté sa ville pour retrouver son père, découvre un village en pleine transition écologique où se mêlent espoir et tension. Elle va rencontrer Dreamer, loup avec lequel elle crée un lien indestructible, et décide alors de réunir toutes ses connaissances pour tenter de le sauver lui et sa meute. Eléa, Emma et Lilou nous proposent un extrait. À vous de jouer.
J'aborde de nouveau la question avec mon père au dîner.
Vous avez décidé de créer cette réserve pour protéger les animaux sauvages, non ? Alors, qu'est-ce qui vous bloque ?
Je te l'ai expliqué, il y a déjà plusieurs meutes sur le territoire. Dans la vallée voisine, les tirs de prélèvement ont commencé avec la bénédiction du préfet. C'est terrible, je sais, mais...
Stop ! Il n'y a même pas 600 loups en France. Tu le vois où, le mai ?
D'abord, Saint-Lunaire n'est pas le seul village concerné. Ensuite, le problème est complexe. La prédation sur les troupeaux est une réalité. Les loups attaquent les brebis qui sont des proies bien plus faciles que les cervidés.
Au départ, c'est la faute des hommes qui ont détruit leurs espèces vitales.
Les ont exterminés surtout.
C'est vrai, mais pendant près d'un siècle, on a vécu sans les loups. Tu comprends ? On n'a plus l'habitude de gérer ces prédateurs. Et surtout, la question qui se pose est, ont-ils encore leur place parmi nous ?
Parmi nous ? Vu qu'ils fuient les humains, il y a peu de chance. Si je comprends bien, tu vas voter pour qu'on les tue, c'est ça ?
Je n'ai pas encore pris de décision. D'un côté, je comprends parfaitement le point de vue de Mathilde et des autres bergers. Sans compter qu'il s'agit d'un prédateur potentiellement dangereux. D'un autre côté, je pense que ce n'est pas très cohérent de défendre la biodiversité et d'ouvrir une réserve en excluant l'animal le plus emblématique de notre faune sauvage. Bref, on me demande de prendre parti, mais je n'en ai aucune envie.
Évidemment qu'il n'en a aucune envie, ni oui ni non, ni pour ni contre, ni dans la vie ni en dehors, même s'il s'en convaincu du contraire. Sa neutralité me donne envie de hurler.
Je ne suis pas sûre que permettre au lieutenant Louvetier d'investir notre vallée soit une bonne chose. En fait, je suis convaincue du contraire. En même temps...
Donc selon toi, ces battues sont inutiles, cruelles, contradictoires avec vos idées et les valeurs de Soyner, c'est ça ?
Oui, plus ou moins.
Mais tu es ok pour laisser des animaux se faire tirer dessus, juste pour ne pas froisser ta copine qui élève des moutons ?
Merci aux lectrices. Nous invitons les auditeurs à poursuivre la lecture de ce roman dont l'autrice engagée dans le mouvement On est prêt soulève les questions fondamentales de la préservation de l'environnement et de la biodiversité.
Troubles, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes un auteur de bande dessinée qui aime partir à la rencontre du monde. Vos envies d'ailleurs aiguisent votre œil de dessinateur et votre esprit d'aventure. Lorsque vous n'êtes pas à l'autre bout du monde, vous vivez en Dordogne. Aujourd'hui, nous vous recevons pour évoquer la nécessité de rééquilibrer les relations entre l'homme et les autres animaux afin de garantir l'avenir de notre planète. Alicia va vous interviewer pour le lycée de Ribérac.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Vos ouvrages sont empreints de sensibilité et d'humanisme. À quel moment la préservation de la nature vous a-t-elle questionné ?
Ça s'est fait très rapidement et très logiquement, parce que j'ai beaucoup voyagé, en fait. Et donc, quand on voyage pas mal, on se rend compte de la nécessité de préserver la nature à travers les pays. En France, on est plutôt bien lotis, en fait. On a beaucoup d'espaces naturels et tout ça. Mais c'est vraiment pas le cas dans beaucoup de pays, en tout cas. Il y a plein de pays où ça pose des tas de problèmes.
De plus, récemment, vous vous êtes rendu au Ghana, dans le parc national de Mole, où des actions permettent qu'humains et animaux cohabitent sur les mêmes territoires. Pouvez-vous nous expliquer la démarche qui a été engagée ?
Eh bien, le parc de Mole, donc, c'est dans le nord-ouest du Ghana. C'est une région très, très sauvage et très pauvre aussi. Et c'est un espace qui fait à peu près 80 km de long et de large, où il y a des animaux sauvages, et à l'intérieur, il n'y a pas du tout d'humains qui habitent là. Mais par contre, tout autour, il y a des villages qui sont très très pauvres, à tel point qu'ils n'ont pas l'électricité. Ils ont juste des puits et des pistes qui les relient. Par exemple, à la saison des pluies, qui dure à peu près la moitié de l'année, on ne peut pas du tout bouger. Donc ces gens-là vivent de l'agriculture, ils sont dépendants de l'agriculture, et il y a des problèmes avec les animaux qui sont autour. Par exemple, il y a des singes ou des éléphants qui viennent ravager les récoltes, des récoltes qui sont absolument nécessaires pour eux, quoi. Donc il y a un effort de cohabitation qui se fait entre les animaux et les humains. Et ces démarches-là sont assez plutôt positives, en fait, parce qu'il y a des ONG, donc des organismes non gouvernementaux, internationaux, qui se penchent sur la question et qui essaient de trouver des solutions innovantes un petit peu. Ça fait vraiment penser à ce qui se passe, ce qu'on a dit tout à l'heure sur le loup, en fait. Il y a vraiment des moyens de cohabiter en fait avec les animaux sauvages. Il y a une nécessité de laisser les animaux sauvages vivre. On en a besoin pour vivre. Il ne faut pas oublier que nous sommes aussi des animaux et qu'on fait partie de la nature.
Et est-ce que vous pourriez nous donner d'autres exemples de tels projets ?
Il y a des projets en France comme ça. Bientôt, je vais partir dans la Creuse. Donc, c'est un département qui n'est pas très très loin d'ici, un département rural. Et là, je pars faire un reportage sur des paysans qui ont des brebis. Et justement, il y a le loup qui arrive un petit peu dans ces zones-là, qui sont déjà dans le Lot. Apparemment, il y en a aussi en Dordogne, là, du côté de Bergerac. Et les agriculteurs qui sont là-bas se préparent à la venue du loup. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des troupeaux de 400 animaux qui sont très difficiles à gérer, et bien, ils réduisent les troupeaux, ils font des petits lots, ils essayent de les surveiller tout le temps, en fait, et de s'adapter à la venue du loup sans le tuer, en fait.
Merci Troupes pour ce témoignage encourageant qui nous montre l'utilité des engagements des ONG pour notre avenir. A très bientôt au détour d'un nouveau récit de voyage.
Merci, à bientôt.
Et si à l'avenir nous utilisons les robots
pour certaines tâches que les humains sont incapables de faire. Dans notre classe, en tout cas, nous apprenons comment fonctionne un robot. Oui, ce robot, Morgane, Gibril et moi-même, Yann, avons préparé une carte postale de nos séances avec le robot Timio.
Notre maîtresse Milena nous fait travailler la programmation par ordinateur en technologie.
Nous observons des robots Timio.
On essaiera de décoder le programme.
Nous apprenons un vocabulaire précis.
Ok, ça marche. C'est bon pour tout le monde, c'est bon pour vous. Alors pour la deuxième ligne, on va commencer avec vous. Qu'est-ce que vous avez noté?
Nous découvrons différents modes de langage de programmation.
Nous observons des résultats avec des données. Et nous maîtrisons de nouvelles connaissances.
Si je mets ma main devant lui, alors il devient vert. On est d'accord avec ça? Est-ce qu'il y a des groupes qui ont trouvé autre chose?
La programmation d'un robot, c'est l'ensemble des opérations que l'on fait pour lui faire exécuter des ordres. Par exemple, si on pose un objet devant le timio, alors ce dernier s'allume en vert.
Si on passe la main devant un capteur, alors il s'allume d'une couleur. Olivier Gagnac est un conseiller départemental en sciences qui nous a appris à programmer le timio.
Ça marche. On passe au troisième programme.
Timio est un robot qui peut se programmer pour écrire.
Il a détecté la main dessous, ça marche aussi avec la...
Le brûlable.
Avec la table.
Timio se programme avec une clé USB branchée à un ordinateur. Avec ses capteurs, il détecte le vide.
Que quand il arrive au bord de la table, qu'est-ce qu'il fait?
Il s'arrête.
Il s'arrête. D'accord? C'est parce que, grâce aux capteurs de dessous, si on les programme pour détecter le vide, à ce moment-là, quand il arrive au bord de la table, il s'arrête. Ok. Dernier programme.
Il peut avancer ou reculer.
Et le groupe suivant prend la parole. Donc c'était ça, je crois.
Oui.
C'est ça.
Oui.
Ok.
Il a des boutons, on peut appuyer dessus.
Oui, c'est pas grave. Vas-y.
Il peut faire du bruit.
Faut télécharger les passages.
Je pense que c'est fait. Vas-y. Alors sur quoi t'appuies là?
Là.
À quelle position? Ah, voilà. Qu'est-ce qu'il faut qu'il détecte là?
La vibration.
Il faut qu'il détecte les vibrations.
Si on lui tape doucement dessus, il peut faire de la musique.
C'est toujours un début pour préparer à venir.
L'espace, un sujet qui est marqué par beaucoup de mystères et qui provoque la curiosité chez les humains, particulièrement dans la potentielle existence de civilisations extraterrestres. Kylian et Manon, du lycée professionnel Pablo Picasso, ont enquêté sur les différentes missions effectuées sur d'autres planètes en vue de l'exploitation de minerais précieux. Ils se sont demandé s'il s'agirait d'une solution d'avenir. Nous les écoutons.
Saviez-vous que les missions spatiales de notre célèbre astronaute français Thomas Pesquet pourraient permettre d'exploiter des ressources extraterrestres ?
Alors qu'ils sont rares sur la Terre, des minerais précieux comme le lithium ou même le cobalt sont vraisemblablement présents dans le sous-sol de la Lune et peut-être même sur Mars. Mais avant de pouvoir les exploiter, des études scientifiques sont nécessaires. Et c'est là que Thomas Pesquet entre dans le game avec l'Agence spatiale européenne.
Mais ils ne sont pas seuls dans cette aventure. Il pourrait y avoir de multiples organismes comme l'Agence spatiale indienne ou la NASA états-unienne. L'exploitation de ces planètes se ferait d'abord à l'aide d'énormes robots miniers qui iraient chercher et analyser les ressources trouvées. Le célèbre astronaute Thomas Pesquet n'irait pas sur les lunes en 2024. Il devra attendre la prochaine mission du programme Artemis.
Certes, pas très écologique, l'exploitation du lithium et du cobalt est indispensable sur Terre dans nos usages modernes. De plus en plus de voitures électriques et de smartphones sont produits, et ces minerais sont des éléments indispensables pour l'instant. En effet, le cobalt permet de protéger les batteries de la surchauffe. Quant au lithium, il permet aux batteries de durer plus longtemps et de se recharger plus rapidement.
Deux questions s'imposent alors à nous. Est-ce raisonnable d'aller exploiter des ressources qui ne sont pas les nôtres? Ne faudrait-il pas plutôt envisager de changer nos pratiques de consommation?
Merci à Manon et Kylian pour toutes ces informations qui nous ont emportés vers d'autres étoiles. Espérons que dans les prochaines années, de nouvelles découvertes scientifiques limiteront notre empreinte carbone.
spéciale et parfaite en direct de l'amphithéâtre Jean Moulin de la médiathèque Pierre Fanlac est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivie. Elle réunissait le meilleur du Périgord, à savoir les élèves de l'école publique élémentaire André Boissière de Périgueux.
Des élèves du collège Le Roi Gourin du Bugle.
Des élèves du lycée professionnel Pablo Picasso de Périgueux.
Des élèves du lycée et du collège Arnaud Daniel de Ribérac.
Un grand merci à Nathalie Malavre, Troubs et Emmanuel Clavrier qui ont répondu à nos questions en direct, ainsi qu'à Annie Ernaud pour l'interview qu'elle a accordée par téléphone. Merci à celles et ceux qui nous ont aidés à concevoir cette émission. Quel courage et quelle patience! Merci donc aux régisseurs de l'amphithéâtre Jean Moulin, Gabriel Mourguet, aux élèves techniciens, techniciennes, chefs de plateau, reporters, chroniqueurs et chroniqueuses. Et oui, il en faut du monde pour faire de la radio scolaire.
Merci à la mairie de Périgueux de nous avoir laissé cette belle salle gratuitement et merci à nos milliers d'auditrices et auditeurs de nous avoir écoutés.
Vous pourrez retrouver cette émission à partir de demain sur le site web radio des 4 établissements. Vous aurez le choix entre Bibi sur le site web de l'OCCE,
Web Picasso 2.4,
RLG Radio Le Roi Gourand,
le site libertéfm.fr rubrique podcast.
À bientôt!